stratégie anti-Covid chinoise dans un instant. Atmosphère, Joy Division, c'était en 1988, il est 6h43 sur France Culture. Et c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, la Chine craint que le coronavirus se propage de Shanghai vers les campagnes.
Oui, et c'est pour cela qu'elle a imposé comme une reprise en main, une reprise du mauvais film de 2020, un confinement très strict de la ville de 26,5 millions d'habitants. Alors certes, les mesures de restriction ont quelque peu été assouplies en début de semaine pour permettre aux quartiers les moins touchés par Omicron de se dégourdir un peu, mais avec plus de 20 000 nouveaux cas par jour, Pékin n'envisage pas de se montrer de sitôt plus permissive. La Chine est l'un des derniers pays au monde à appliquer la stratégie de zéro Covid, une stratégie qui lui a réussi dans un premier temps, mais cela peut-il durer ? Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po. Alors déjà, une stratégie zéro Covid au quotidien, ça se traduit comment, au-delà des centres de quarantaine qu'on a beaucoup vus et racontés ? Quoi d'autre peut-on en dire ?
Alors l'objectif, encore une fois, ce n'est pas de limiter la circulation du virus, mais c'est bien d'empêcher à tout prix la circulation du virus, c'est-à-dire d'avoir le plus rapidement possible une circulation nulle de ce virus là où quelques cas ont été détectés. Alors c'est évidemment plus facile lorsque quelques cas sont détectés et de façon extrêmement précoce. C'est beaucoup plus compliqué quand vous avez chaque jour des dizaines de milliers de cas. L'objectif, c'est donc d'isoler, de confiner l'ensemble des villes ou l'ensemble des quartiers qui sont touchés par la propagation du virus. Et c'est ce qui se passe typiquement à Shanghai. On a des quartiers qui, pendant deux semaines, dans leur ensemble, ont été fermés. Ceux qui n'avaient pas, pendant deux semaines, de contamination ont pu commencer à se rouvrir, vous l'avez rappelé. Les autres, du moment où vous avez une contamination, il y a 14 jours supplémentaires de confinement, le temps de tester massivement la population et encore une fois d'éviter à tout prix la circulation du virus.
Il y a quand même quelques déplacements autorisés, c'est-à-dire des personnes qui peuvent venir pénétrer dans Shanghai, parce qu'on dit que les visas sont délivrés au compte-gouttes et qu'il y a des quarantaines à l'arrivée sur le territoire. Ça veut donc dire qu'on peut accéder à Shanghai.
Alors, sur l'entrée à Shanghai aujourd'hui, oui, il y a quelques exceptions, mais c'est quasiment impossible. Les seuls qui peuvent se déplacer, c'est évidemment les agents qui mettent en œuvre la prévention et le contrôle des épidémies en Chine. C'est aussi une partie des membres du parti qui ont pour objectif justement de faciliter ce travail de lutte et de prévention contre les épidémies. Et c'était par exemple extrêmement intéressant de voir il y a 3 jours le Parti communiste chinois insister sur le fait que plus de 700 000 de ses membres à Shanghai avaient participé au travail de prévention et contrôle des épidémies et que, je cite, la prévention et le contrôle des épidémies étaient un champ de bataille sans fumée, mais aussi un terrain d'examen pour tester la mission des membres du parti. On voit bien qu'on a de façon extrêmement rapide le lien entre gestion sanitaire et gestion politique de la crise.
D'ailleurs, les politiques responsables locaux, les maires de Shanghai ou de Shenzhen par exemple, est-ce qu'ils sont surveillés dans leur pratique des confinements? Quels comptes ont-ils à rendre et à qui?
Alors, ils sont évidemment surveillés, que ce soit par la population, mais aussi par les autorités centrales. Et il n'est pas rare, lorsqu'il y a des flambées épidémiques, même extrêmement limitées, que certains dirigeants locaux soient sanctionnés en étant, par exemple, démis de leurs fonctions. Mais plus largement, on a une inquiétude au sein du Parti communiste aujourd'hui. Et on voit se multiplier depuis d'ailleurs une semaine des articles pour rappeler que la gestion qui est celle aujourd'hui du Parti communiste, est la bonne. Vous aviez lundi un très long article en une du quotidien du peuple pour rappeler l'amour de Xi Jinping pour le peuple, je cite. L'objectif était encore une fois d'expliquer le bien fondé de la stratégie chinoise et d'expliquer que le parti était dévoué, contrairement au régime politique à l'étranger, au bien-être de la population et à la vie d'abord, comme ils le disent. Et vous avez, par exemple, ce matin même, dans la presse chinoise, dans le quotidien du peuple, l'explication de la stratégie nationale qui est présentée comme une efficacité maximale, mais un coût minimal, comme un inconvénient momentané, mais au service d'un avantage sur le plus long terme, sur des sacrifices demandés à une partie des populations locales pour le bien, entre guillemets, de l'ensemble de la communauté nationale. Et donc l'objectif, encore une fois, c'est de montrer que le système de gouvernance chinois, il est plus efficace que les autres, et surtout, il prend en compte, entre guillemets, les besoins et surtout le bien-être de la population en évitant tout simplement les contaminations.
Pourquoi mettre autant d'énergie à se justifier? Le Parti communiste a-t-il peur des premières remontrances, pas premières d'ailleurs, mais des remontrances que les Chinois font remonter via les réseaux sociaux notamment, Weibo, l'équivalent de Twitter en Chine, les pétitions sur WeChat, mais qui ne restent jamais très longtemps en ligne? Mais est-ce que ça pèse vraiment? Et surtout, est-ce que le Parti communiste laisse s'exprimer ce mécontentement où tout disparaît au fur et à mesure?
Alors effectivement, je pense qu'il y a deux inquiétudes. Il y a une inquiétude liée à la pandémie en elle-même et il y a une inquiétude liée aux conséquences de la pandémie sur la population. Les conséquences de la pandémie sur la population, c'est évidemment à Shanghai un désaccord d'une partie de la population et surtout une colère, non pas forcément toujours envers l'État central, mais aussi envers les autorités locales, lorsque, par exemple, il y a des pratiques qui sont considérées comme injustifiées. C'était le cas il y a quelques jours de la séparation des enfants et des parents lorsque les enfants étaient contaminés. C'est la question de l'abattage, par exemple, des animaux de compagnie lorsque les membres du foyer sont atteints du Covid. C'est parfois le manque de nourriture dans certains quartiers ou dans certaines résidences de Shanghai. Puisqu'il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il est extrêmement compliqué d'alimenter 25 millions d'habitants, c'est la population de Shanghai, surtout dans certaines parties de la ville. Il faut bien comprendre par exemple que la partie est de la ville, comme Pudong, la ville nouvelle entre guillemets, a été confinée plus tôt que la partie ouest de la ville, et donc les gens ont eu plus ou moins de temps pour se préparer. Et donc l'objectif des autorités chinoises, c'est évidemment d'éviter à tout prix ce mécontentement. Mais plus largement, vis-à-vis de la pandémie en général, il y a une double inquiétude du côté chinois. Il y a une inquiétude sanitaire et une inquiétude politique. L'inquiétude sanitaire, elle est en réalité que le taux de vaccination, qui a pourtant tant été vanté par le système politique et par l'État central, est en réalité, entre guillemets, limité. Il n'y a que 50% des personnes âgées de plus de 60 ans qui ont aujourd'hui reçu un booster, c'est-à-dire 125 millions de personnes sur les 250 millions de personnes âgées en Chine.
Donc la deuxième dose.
Exactement. Donc là, je parle du booster, hein, 50%. On est 80% sur une deuxième dose, mais que 50% sur le booster. Or, ce qui inquiète les autorités chinoises, c'est le cas de Hong Kong, puisqu'à Hong Kong, 96% des personnes qui sont décédées du Covid avaient plus de 60 ans. Et donc, on a potentiellement, entre guillemets, en Chine, plus d'une centaine de millions de personnes qui pourraient, entre guillemets, faire une forme grave, ou en tout cas, qui fait partie des populations vulnérables. L'objectif est donc d'éviter à tout prix que ces populations-là, n'attrapent, entre guillemets, le Covid.
Et comment expliquer d'ailleurs ce faible taux de vaccination ?
Alors, le taux a été extrêmement élevé au début, dans les grandes premières phases, entre guillemets, de la vaccination, de la campagne de vaccination. Aujourd'hui, il est plus faible parce que une partie des personnes âgées ne vont pas toujours se faire vacciner, car il est parfois difficile d'accéder à ces personnes plus âgées. C'est le cas aussi dans d'autres pays. Mais ce qui est étonnant, c'est la question de ce booster. Et là, on n'a pas pour l'instant de réponse en Chine, c'est comment expliquer qu'en Corée du Sud, vous ayez 90% des personnes âgées qui aient reçu un booster, quand en Chine, vous n'en avez que 50%, alors même que la Chine produit massivement des vaccins.
La Chine et les limites de la stratégie anti-Covid. L'invité des enjeux internationaux ce matin est le chercheur Antoine Bondaz.
Antoine Bondaz, est-ce qu'on peut mesurer l'ampleur des pertes d'ores et déjà pour ces villes ? On a parlé de Shanghai, mais d'autres villes sont concernées, vous allez nous dire lesquelles. L'ampleur des pertes pour ces villes, pour le pays entier, de ces vagues successives d'épidémies et de confinement, est-ce que la reprise entre deux vagues a apporté suffisamment d'oxygène pour que la Chine puisse continuer à appliquer cette stratégie zéro Covid ?
Alors, cette stratégie zéro Covid dynamique, elle est possible tant que seulement une partie du pays est frappée par les confinements. Et c'est pour l'instant la grande différence entre la Chine et les différents pays européens. Jamais l'ensemble de la Chine n'a été confinée. Si on prend le cas, par exemple, de Wuhan et du Hubei au printemps 2020, c'était l'équivalent de Bordeaux et de la communauté urbaine de Bordeaux qui était confiné quand le reste du pays venait en soutien à la ville. Donc pour l'instant, les autorités chinoises considèrent que tant qu'il n'y a que quelques villes qui sont frappées par le confinement, cela est gérable, surtout que l'ensemble des précédents, que ce soit à Xi'an au mois de décembre, que ce soit dans le Jilin ces dernières semaines, ont montré que l'ensemble de ces flambées épidémiques étaient gérables. Là, la vraie question, c'est à Shanghai, avec plus de 20 000 cas par jour, c'est sans précédent depuis Wuhan. Mais on sent une inquiétude du côté chinois, d'ailleurs bien plus du fait de la pandémie que du fait de la guerre en Ukraine, sur l'économie du pays, et on voit se multiplier depuis seulement quelques jours les appels de Xi Jinping, par exemple, à la fois lutter contre la pandémie, mais aussi à assurer le développement économique du pays. Il est encore un peu tôt pour dire des conséquences. On aura certainement des chiffres dans les semaines ou les mois qui viennent, mais évidemment à Shanghai, par exemple, il y a une inquiétude.
Voilà, par exemple, ce ralentissement de l'économie a un effet, mais peut-être sera-t-il minimisé par le fait que la Chine est de tous les pays du monde l'un de ceux qui s'est le plus vite remis de la crise, avec une croissance de près de 2 points en 2020, alors que les autres puissances étaient en récession, et la Chine a mis en place un plan de relance massif, comme à chaque crise d'ailleurs. La Chine qui a par ailleurs, et pour conclure Antoine Bondaz, entrepris de construire un mur dans le sud, sur la frontière qu'elle partage avec la Birmanie, officiellement pour se prémunir du Covid. Est-ce que cet argument peut être pris au sérieux ?
Alors, une partie de la frontière était déjà sécurisée, voire même, entre guillemets, fortifiée, c'est-à-dire avec des grillages et des points de passage extrêmement contrôlés, extrêmement durcis. Donc, là-dessus, il y a évidemment une inquiétude et c'est assez facile pour les autorités chinoises de mettre en avant le risque de contamination de l'étranger, même si la population, à court terme, y croit de moins en moins, pour une raison simple. L'immense majorité, aujourd'hui, des contaminations ne sont pas, comme il y a quelques mois, importées de l'étranger. Elles se produisent sur le territoire national. Et ça, d'ailleurs, c'est une critique qui est faite sur les réseaux sociaux de plus en plus d'un gouvernement et d'une propagande qui se concentre avant tout sur ce qui se passe parfois aux États-Unis pour essayer de discréditer le modèle américain, quand le modèle chinois lui-même, même s'il a été en partie efficace jusqu'à présent, n'est pas exempt de critiques dans la mise en œuvre des mesures au niveau local. C'est par exemple le cas, encore une fois, à Shanghai.
Merci beaucoup, Antoine Bondaz, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po.
Merci. Les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve de lundi pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h45.
France Culture. L'esprit d'ouverture.